bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le bouche à oreille qui est de retour pour la 390e fois. Et nous recevons l'association Nouba. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Donc, association Nouba représentée par Isabelle Test, la présidente. Bonjour Isabelle.
Bonjour Frédéric.
Et Philippe Daven, le trésorier. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, je suis accompagné de Luc à la technique, notre marsouin. Hervé qui va co-animer avec moi.
Bonsoir tout le monde.
Et nous avons même un chroniqueur, un spécialiste, un expert en numérique, Gontran.
Eh bien bonsoir.
Voilà, alors je précise numérique, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va être un sujet important ce soir. Donc, il y a aussi quand même un petit plus ce soir, c'est qu'on a une standardiste. Donc Fred, notre collègue, qui est là dans les coulisses de la radio et qui peut répondre à vos rappels. Donc si vous voulez appeler la radio, 03... 44 59 30 30. Il y a le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com ou le Facebook rvmfm. Voilà, Hervé, oui.
Je crois que tu as oublié quelqu'un, il y a aussi Nouba.
Et ah, on a oui. Nouba. Oh Nouba. La pauvre. Oh là là là.
Faut pas l'oublier quand
alors,
même.
Nouba, c'est une chienne labrador, c'est ça?
Oui, absolument.
Voilà, mais je vais laisser Isabelle la présenter, ce sera beaucoup plus facile. Alors, Isabelle, à vous la parole.
Alors, Nouba, tout d'abord, est ma chienne guide qui a 3 ans, non, qui a 5 ans et demi maintenant. Elle est à mes côtés depuis l'âge de 23 mois. Et elle a donc elle est à mes côtés depuis un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. Et elle me guide à la perfection, elle m'accompagne dans tous mes déplacements et vraiment, elle représente pour moi une très, très grande liberté, une grande fluidité et beaucoup de sécurité dans mes déplacements. Et c'est un excellent lien social parce que Nouba est extrêmement sympathique, elle est joueuse, elle est enjouée, elle va vers tout le monde et elle est très belle. Voilà.
Alors, ça, c'est vrai. Hein. Voilà, on va quand même préciser, Isabelle, que vous êtes non-voyante.
Oui, je suis totalement non-voyante, puisque les chiens guides sont aussi remis pour les malvoyants. Et Nouba vient de l'école de chiens guides de Ronc, qui a un autre centre à Onguemargues-Nouville. Et l'école de Ronc a été la première école de chiens guides en France. Et elle a été fondée en 1952 par Paul Corteville. Donc, elle a fêté ses 70 ans l'année dernière.
Et quelle est la fonction de l'association Nouba?
Alors, Nouba est une association qui est née en juin 2022. Et cette association travaille sur deux axes. D'abord, la sensibilisation du grand public à la déficience visuelle. C'est ce que nous avons commencé à faire en organisant des manifestations diverses. Donc, nous avons eu un dîner dans le noir au bistrot de Flandre, qui a très bien fonctionné le 23 mars. Une dégustation de vin à l'aveugle. Et puis, on a un deuxième notamment. Donc, on va prévoir d'autres manifestations à l'avenir. Donc, les dîners dans le noir auront lieu. Il y aura d'autres dîners dans le noir, un autre à la rentrée et une autre dégustation de vin. Et on prévoit d'autres manifestations autour du cinéma. Mais ça, je pourrais en dire beaucoup plus prochainement, dans une prochaine émission. J'ai la joie
sûr,
de le dire.
De
et d'autre part, nous allons aussi travailler sur un deuxième axe à destination des déficients visuels en proposant un accompagnement numérique, puisque maintenant, le numérique, le multimédia prend de plus en plus de place dans notre société, puisque de plus en plus de démarches administratives se font en ligne, telles que les déclarations d'impôts, puisque c'est à partir d'aujourd'hui, par exemple, qu'on doit le faire. Et maintenant, ça se fait en numérique. Donc le site est de plus en plus accessible, mais il faut pouvoir utiliser une tablette, un smartphone pour le faire, ou même un ordinateur, ce qui est beaucoup plus simple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour quelqu'un qui est aveugle et qui vit seul, faire ses courses en ligne lui donne une très, très grande autonomie. Donc, on le fait sur l'application, que ce soit n'importe quelle grande surface, hein, Intermarché, Carrefour. Enfin, avec des aléas d'accessibilité des applications, parfois sur smartphone. Mais il est toujours possible de le faire sur le site internet et ça nous permet d'être complètement autonome, de faire nos courses, de choisir nos produits, nos marques, de pouvoir lire les étiquettes puisqu'on a absolument toutes les informations qui figureraient sur un emballage. Donc ça, c'est un très très gros gain d'autonomie. D'autre part, à l'heure des appareils de plus en plus tactiles, eh bien, les appareils connectés, les enceintes connectées ou même les applications accessibles peuvent nous permettre d'utiliser notre four ou notre lave-linge, notre aspirateur, par exemple, l'aspirateur robot, par exemple, en toute autonomie, lorsque les applications fonctionnent et lorsqu'on a Internet. Parce que ça peut être le problème aussi. En cas de panne d'Internet, si on n'a pas de bouton physique, si on n'a pas cette alternative de bouton physique, eh bien, là, dans ce cas-là, on ne peut plus utiliser ces appareils connectés. Et ça, ça peut être très, très embêtant. Alors, ça peut être un gros plus, le connecté, parce que même sur un appareil qui ne l'est pas, mais qui a des boutons, on ne peut pas savoir que notre four est réellement à 180 degrés, sauf si on compte l'écran. Mais c'est plus contraignant. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisant de pouvoir vérifier par soi-même qu'on est sur la bonne fonction ou le bon cran. Là, j'ai donné des exemples un peu plus concrets pour que les auditeurs comprennent bien. Donc là, je suis entrée dans le concret.
Alors Isabelle, on va prendre son temps, hein, parce qu'on a une heure d'émission quand même, parce que là, Isabelle, elle est partie. Hein. Bon, 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 ça envoie. On aimerait bien vous connaître déjà qui est Isabelle. Et après, on va présenter Philippe.
Alors, très bien. Donc, moi, je suis donc Isabelle Test. J'habite près de Compiègne, à Clairoy. J'ai été professeure de musique pendant 17 ans en collège. Et pour des problèmes de voix, j'ai dû cesser d'enseigner. Et du fait de mon arrêt d'activité, j'ai décidé de fonder cette association avec mon Philippe Daven, qui est à mes côtés. Nous avons décidé de fonder cette association pour venir en aide aux déficients visuels et pour combler un vide, un manque, je pense, dans l'Oise, dans ce domaine.
Philippe, on va lui donner la parole quand même.
Alors moi, que dire sur moi ? Je suis compiégnois, enfin clairoisien.
Maintenant
je viens du milieu multimédia. J'avais une entreprise de multimédia sur Compiègne qui s'appelait Sixième Sens et dont j'ai arrêté l'activité en fait. Et depuis, je m'occupe d'associations. Je me suis occupé de la Ligue des droits de l'homme, de SOS Racisme, de... Et là, je suis en compagnie d'Isabelle pour cette aventure de Nouba qui démarre. Et,
voilà. Oui, ça fait un an, quoi. Même pas un an. Hein.
Donc, non, ça fait
un an. Vous n'avez pas encore fêté vos un an. Voilà. Ouais. Et donc, Philippe, vous êtes voyant.
Je suis voyant.
Voilà, exactement. Donc votre association, c'est non-voyant, malvoyant et voyant. Exactement. C'est une particularité aussi. Hein.
Exactement. Ouais. Mais c'est la réalité, en fait, du monde, parce que il y a quelque chose dont les gens ne prennent pas conscience, c'est que d'ici 2050, il va y avoir deux fois plus de non- et malvoyants du fait du vieillissement de la population. Et c'est une vraie problématique parce que Isabelle, étant aveugle de naissance, a suivi un cursus scolaire où tout était fait pour la non-voyance. Alors que les gens qui deviennent aveugles ou malvoyants en cours d'existence, ils perdent la lecture, ils n'ont plus que l'audio en fait, ils connaissent pas le braille. Et c'est une vraie difficulté pour communiquer, en fait.
Ils n'ont pas les outils nécessaires.
Ouais, exactement.
Mais on a encore quand même un pourcentage de personnes entre 0 et 20 ans, selon la dernière étude Omer, je crois que c'est à près 10 ou 15%, qui ne maîtrisent pas le braille et qui ont entre 0 et 20 ans. Et je trouve ça très, très préoccupant. Mmh. Parce que sans aucune maîtrise d'aucun alphabet, d'aucun système d'écriture et de lecture, ce sont des analphabètes.
Et le braille, c'est la seule méthode possible pour les non-voyants,
c'est le seul, malvoyants. Alors, malvoyants, ils peuvent lire parfois en agrandi, lorsqu'ils ont un reste visuel suffisant. Mais pour les non-voyants, c'est le seul système d'écriture, c'est le système d'écriture universel depuis la fin du 19e siècle. Donc le braille a été inventé en 1829. Donc le temps qu'il s'impose et qu'il soit mis au point, c'est vraiment fin 19e, même enfin, début 20e, que le braille a été vraiment adopté par tous les pays du monde. Donc le braille se transcrit dans 140 langues à peu près. Donc même les langues asiatiques à idéogramme sont des combinaisons de signes, mais c'est transcrit en braille.
Il y a 63 signes, là, ce que j'ai vu, voilà, qui permettent d'avoir toute la palette nécessaire.
Oui, toute la palette des lettres, de signes mathématiques et des signes musicaux. Et ça, c'est pour le braille 6 points. Le braille informatique, lui, s'étend à 8 points pour que les lettres majuscules ne soient qu'en un seul signe au lieu de deux. Et les lettres accentuées puissent se différencier des chiffres sans devoir les faire précéder d'un autre signe avant.
Puisque le braille, en fait, c'est le principe, c'est une matrice de 6 points,
un rectangulaire,
où tactilement, on détecte la combinaison lettre. De points pour avoir la lettre correspondante.
La façon dont les points sont placés. Voilà.
Sur oui. Exactement. Et donc, une imprimante braille ne s'appelle pas une imprimante, mais une embosseuse.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et c'est un matériel.
C'est compliqué quand même, alors, au départ.
D'apprendre le braille.
Ça va. Non.
Quand
non,
on
non.
commence petit, ça va.
Oui. Même après, je pense qu'il y a, il y a un principe à connaître. Il suffit de connaître les lettres de A à J, les combinaisons des lettres de A à J. Et après, à partir du K, on ajoute le point 3 à la lettre A, le point 3 à la lettre B, etc. Et il y a tout un système comme ça que je ne vais peut-être pas détailler à la radio parce que ça serait peut-être complexe pour les auditeurs, mais qui permet de comprendre le système assez vite. Après, pour le lire, c'est un entraînement. Ça prend 2 à 3 mois. Ça dépend un petit peu des gens. Au cours de ma scolarité, j'ai eu des professeurs voyants qui ont appris le braille. Mais ils le lisent avec les yeux.
Oui, c'est ça. On était avec le conservateur de la bibliothèque de Compiègne qui nous disait qu'il avait appris le braille. Mais en tactile, il n'arrivait pas à le lire. Et il n'y avait qu'en visuel qu'il arrivait à le déchiffrer.
Et le braille prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, il y a le braille contracté, c'est-à-dire qu'on contracte les mots, on contracte les syllabes en quelques lettres pour donner un abrégé. C'est un peu un équivalent de la sténo. Et ça prend 30% de moins en niveau place.
Oui, j'avais une question de voyant. Oui. Est-ce que c'est long de lire un livre en braille? Parce que je ne me rends pas compte. J'ai l'impression que vous dites lettre après lettre. Est-ce que c'est comme ça que ça marche
Non. De voyant ou non voyant?
Non, je dis de voyant, c'est pour déconner. C'est parce que moi, je ne connais pas le braille. Et donc,
Alors, nous, on lit avec deux doigts. Et moi, je lis à la vitesse tout à fait normale. Je n'ai pas emporté de livre ici. J'aurais pu faire une démonstration.
Mais la lecture, ça fait lettre par lettre quand même.
Comment?
La lecture, ça fait lettre par lettre.
Ouais. Non, mais mot par mot, parce qu'on lit tellement vite qu'on a syllabes et mots.
C'est-à-dire que le toucher est tellement rapide.
Qu'on arrive
On a fait une lecture dans le noir, par exemple, justement pour montrer que la lecture se décline aussi bien à la vitesse.
Les doigts sont aussi rapides que les yeux, quoi, finalement.
Oui, tout à fait.
Après, on lit aussi sur afficheur braille. Donc, c'est-à-dire que c'est une ligne braille de cellules d'affichage éphémère de cellules braille qui se rétractent et sortent au fur et à mesure de l'affichage de l'écran, de les informations à l'écran.
C'est plus compliqué à expliquer. Ouais. Et il y a le braille traditionnel, enfin le braille classique. Oui. C'est, pour vous donner un exemple, le dernier livre de Pierre Lemaître.
L'avant-dernier,
oui. Ouais.
Le Grand Monde, c'est le Grand Monde,
par exemple. Il faisait à peu près 13
volumes.
Pages.
Ouais, c'est 13 volumes en braille abrégé recto verso, en format A4.
Donc, il faut être musclé et faut avoir de la place. Une bibliothèque en braille, c'est énorme.
Il faut une maison extensible. Alors, depuis le mois de janvier, le CTEB, qui est le premier centre de transcription braille à Toulouse, a mis en place les livres braille au prix des livres imprimés. Puisqu'avant, les livres braille coûtaient beaucoup, beaucoup plus cher.
Ah,
Et le prix de revient d'un livre braille, c'est 700 euros.
Oui, à peu près.
Waouh. Et effectivement.
Mais là, ils sont vendus entre 11 et 20 euros, comme dans une librairie classique.
Mais c'est énorme, entre 700 de passer à 15
Oui, parce
euros,
que ils ont, cette association a investi des fonds propres, ils se sont fait financer. Enfin, ils se sont débrouillés pour que les livres soient accessibles au plus grand nombre. Et ça, c'est, il faut un travail vraiment de qualité. Donc voilà, je profite pour leur rendre cet hommage bien mérité.
Et patati et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi. Et patati et patata, ras-le-bol, 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 ras-le-bol.
Ce soir, c'est le BAO. Je dis ça comme je dirais, ce soir, c'est frites, burgers et glaces en dessert. Mais c'est vrai qu'il revient chaque semaine, le BAO. Et pour certains, c'est pire qu'un McDo. Et puis, il n'est jamais pareil, le BAO. Les sujets en sont toujours différents. Ce soir, par exemple, nous recevrons l'association Nouba. Nouba comme Ferlin Nouba, qui nous vient de l'arabe classique Noba, N-O-W-B-A, signifiant tour au Maghreb et faisant référence à la musique interprétée à tour de rôle par les musiciens. Alors qu'ici, pas du tout. Pas un seul musicien dans le studio, non,
si.
Je vous jure.
Ah, si.
Si.
Ah, bah si, mais je le savais pas, moi, quand j'ai écrit ma chronique. Alors, faut pas me rouler, hein, si, si. Farine. Oui. Alors, bon, il y en a un. Allez, ok.
Il y en a une.
Il y en a une. Ici, Nouba fait référence au chien de la présidente de l'association que nous recevons. Bon. Bien sûr qu'elle l'emmène faire son tour. Faut bien qu'il fasse ses besoins, la pauvre bête. Mais pas uniquement, non. Madame la présidente est malvoyante, donc c'est aussi pour faire son tour à elle que son chien Nouba l'accompagne. Ah, il faut les voir ensemble sur les trottoirs de leur ville, évitant les embûches du genre poteau, feu rouge, buisson, détritus, crottes de chien mal élevées. Qu'il pleuve, vente, neige ou fasse soleil, Madame la présidente sort faire la Nouba. Enfin, je veux dire, elle sort avec Nouba. Mais si ce lapsus canus lupus n'est pas tout à fait révélateur, il n'en est pas pour autant faux, car l'association Nouba organise des dégustations de vin à l'aveugle et des repas dans le noir. Ça doit y aller tout de même un peu, sous prétexte de nous faire comprendre comment se débrouille un malvoyant ou une malvoyante pour déguster un plat ou reconnaître un vin. Cela pourrait tout de même, et je pèse mes mots sur la balance de la bienséance, s'apparenter à une forme de Nouba, non ?
Oui.
Waf, waf, dit le chien. Il n'est pas d'accord. En parlant de lui, d'ailleurs, j'imagine également que quand Madame la Présidente rentre à la maison après une absence de quelques heures, il lui fait la Nouba, son Nouba. Il est content, mon Nouba, il est content. Elle est revenue, maman, elle est revenue. Oh, ça, c'est un bon chien, ça. Oh oui, ça, c'est un bon chien. Pratique comme nom pour un chien, vous ne trouvez pas ? Bref, si je me moque un peu d'un sujet important, c'est pour mieux attendrir les esprits de ceux qui ne veulent pas voir. Autrement qu'avec leurs yeux, c'est-à-dire les vrais aveugles. Ceux pour qui la vue, le trottoir, l'obstacle, les obstacles ne sont pas un problème quotidien. Nous, par exemple, ici ce soir dans le studio de Radio Valois-Mulsien, ben oui, si on avait eu des coronets, on aurait fait l'émission dans le noir. On aurait cherché les micros du bout des lèvres. Vous n'allez pas me dire que Luc le marsouin depuis le temps ne connaît pas ses boutons par cœur, non ? Bref, bon, je me calme, car l'association Nouba se bat, et en plus ça rime. Nouba se bat. Et ça rime avec quoi, s'il vous plaît ? Eh bien, toujours avec le seul et même et unique problème principal, l'autonomie des déficients visuels. Et en particulier, dernièrement, autour des interfaces tactiles sur les appareils électroménagers, par exemple. C'est vrai, quand j'y pense, moi qui ne suis pas déficient visuel, l'autre jour, j'ai changé mon four. Oui, mon vieux four à boutons qui faisait du bruit. J'en avais marre aussi de ce vieux tromblon qu'il fallait régler sur 300 degrés pour obtenir à peine 150. Vous auriez dû voir la gueule de mes plats, c'était plus mangeable. J'ai craqué, j'en ai acheté un tout neuf, New Generation, avec interface tactile. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, même en possédant la vue, bon, qui certes baisse avec l'âge, hein, faut pas se leurrer, ce que je peux vous dire, c'est que le chemin que parcourt ma vue de mes lunettes jusqu'à mon cerveau est dur. Oui, très dur. Un peu comme quand, ayant sorti votre chien, il n'arrête pas de revenir en arrière sur les odeurs rencontrées en route. On a du mal à rentrer chez soi après. Je ne parle pas ici de Nouba, bien entendu. Bref, chers auditrices, auditeurs, faut bien l'avouer, j'y comprenais que dalle. Il m'aura fallu plusieurs relectures dans ma langue maternelle, ainsi que toute l'aide de ma compagne, qui, elle, comprend tout plus vite que moi, bisous bisous mon amour, pour en venir à bout de ce foutu four. Alors imaginez, le ou la malvoyante, seule face à l'interface de son four ou de son frigidaire, c'est l'escalade de l'Everest, l'aiguille du Midi, le Mont Pelé. À quand un assistant vocal connecté et connectable à tous les appareils, sans oublier abordable. Les malvoyants ne sont pas tous riches, hein, je le rappelle. Un assistant vocal qu'on appellerait, par exemple, Nougat. Nougat, mise en route du four, chaleur tournante 200 degrés, s'il te plaît. Nougat, mise en route de l'aspirateur. Cuisine, salle à manger, et n'oublie pas la chambre, hein, l'autre jour, tu l'as oublié, hein, espèce de feignant. Nougat, ouverture du frigidaire. Que reste-t-il à manger ? Nougat, arrête de me coller ! Bon, je déconne, hein, mais les malvoyants ont besoin que les choses avancent. Ils ont besoin de vivre leur vie sans qu'on leur prenne la main dans leur quotidien. Donc, pour finir, eh ben, une petite question décalée. Une expression dit comme ça, qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Que pensez-vous plutôt de « au royaume des voyants, l'aveugle souhaiterait qu'on le voit »
Très bien.
Belle
chronique.
Ça va,
c'est Isabelle.
Voilà.
Ouais.
Au Philippe. Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais très belle chronique décalée. Ça convient vraiment au ton que nous souhaitons adopter dans notre association. Puisque nous, on n'est pas dans le... Alors, on n'est pas dans la compassion, dans la pitié. L'entraide, l'accompagnement, oui, mais pas la compassion, la pitié. On voudrait que les aveugles soient des citoyens, soient inclus dans la société. Et voilà, et notre message est que nous vivons tous dans le même monde, mais nous avons parfois une perception différente de celui-ci.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a tout un
vocabulaire.
Tout un paysage autour de l'aveugle qui vit dans le noir.
Qui vit dans la nuit.
Alors que, en fait, pour prendre l'exemple d'Isabelle, elle ne vit pas du tout dans le noir.
Non, moi je ne vois rien, mais rien. Donc je ne suis pas dans le noir. Je sais quand il fait jour, quand il fait nuit. Bon, déjà, pour moi, moi, je suis toujours souriante, donc il fait toujours jour. Donc... mais non, je ne vis pas dans le noir. Et lorsqu'on a fait l'expérience du dîner dans le noir, ou dans nos expériences, nous disposons de masques qui permettent de laisser les yeux ouverts sans rien voir. Et ça interpelle souvent ceux qui font cette expérience. Parce qu'ils n'ont pas à garder les yeux fermés.
Oui.
Ils ont vraiment
c'est un rapport tout à fait différent, en fait.
Oui.
Et donc, je vois que pour l'association Nouba, vers un nouveau regard, donc c'est aussi un des slogans que vous avez, oui. Il y en a plusieurs, hein. Êtes-vous donc aveugle pour ne pas nous voir ? C'est important d'avoir une petite provocation, qu'on peut dire, c'est ça ? De faire réagir un petit peu les gens autour de vous.
Ouais.
Et puis, montrer aussi que rien n'est tabou. Enfin, les mots, les gens parfois s'excusent. Ah bah regardez, ah non, excusez-moi. Non, oui. Ne vous excusez pas. Ce sont des mots qui font partie du langage courant. Nous regardons autrement, avec nos autres sens. Nous percevons autrement.
Oui.
Mais il n'y a pas lieu de mettre des tabous dans les mots qu'on emploie.
C'est nous qui sommes voyants, qui vous excluons un peu, en fait.
Voilà, oui, par ce...
Par la peur.
Oui, par la peur, parfois.
Par la méconnaissance, ce qu'on connaît pas, c'est ça,
Oui. Et pour revenir au chien guide, donc je voulais simplement dire deux choses, enfin plusieurs choses. Déjà, lorsqu'elle a le harnais, on ne la caresse pas, on ne la distrait pas parce qu'elle est au travail. Et un chien guide ne travaille que 20% de son temps, et encore 20%. Il nous aide dans nos déplacements à l'extérieur. Mais dans notre maison, le chien guide redevient chien de compagnie, comme les autres chiens.
Alors là, on va expliquer aux auditeurs que Nouba est allongée à côté d'Isabelle, tranquillement.
Oui. Sans harnais.
Si elle veut intervenir en émission, Nouba, tu peux, quand tu veux, il n'y a pas de problème.
Oui, mais elle est toujours très sage, on va au cinéma, on va absolument partout, et jamais, on n'a jamais de problème. Et les gens sont toujours très étonnés de voir un chien au cinéma, alors ça les surprend toujours.
Une aveugle au cinéma, c'est...
Oui, ça peut surprendre aussi, c'est ça.
Une aveugle au cinéma. Alors, je leur montre le petit boîtier d'audio-description, puisque le cinéma de Compiègne est équipé. Et donc, ça nous permet d'avoir accès au film. Et ça, c'est une grande avancée. Même s'il reste à faire, beaucoup à faire.
Alors, l'audio-description, en fait, c'est l'intercalage entre les dialogues et les commentaires de la description de l'image qui se déroule à l'écran.
Vous avez un casque supplémentaire ?
Oui, on a un casque avec nous. Et donc l'audiodescription est diffusée en voix off, la voix off est diffusée dans le casque. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'on veut acheter des films en DVD ou en Blu-ray, ils ne sont pas forcément en audiodescription, alors qu'ils le sont au cinéma. Et ça, c'est pour des questions de droit qui sont complètement différents. Et maintenant, il y a un prix de la meilleure audiodescription parallèle avec les Césars qui s'appelle le Marius de l'audiodescription.
Ah oui. D'accord. Mais j'ai vu audiodescription, souvent à la télé, c'est pour les sourds-muets qui font ça.
Alors,
aussi.
Alors, c'est le sous-titrage, ça. C'est
sous-titrage, oui, pardon. Oui. Oui, d'accord,
alors,
c'est pas pareil.
Tous ouais. les films sont sous-titrés, mais beaucoup ne sont pas en audiodescription.
Donc ça, il faut développer ça, c'est ça alors, il faut,
oui, encore ouais. développer. Donc maintenant, les films qui sortent en salle ont une subvention du CNC lorsqu'ils sont en audiodescription. Et sur 500 films qui sortent en France, à peu près 200 sont en audiodescription.
J'ai vu sur votre site, on peut avoir accès à des films, justement.
Oui. Ouais. Alors, on a mis, pour l'instant, une liste de films, puisque ouais. nous avons commencé à constituer une collection de films en audiodescription. Donc, nous avons mis déjà une liste de films et nous envisageons de créer une médiathèque, une DVD-thèque, exclusivement pour les déficients visuels, où ils ne trouveraient que des DVD en audiodescription et des Blu-ray.
Dans un premier temps, on pensait faire du prêt. Donc, quelque chose d'absolument pas commercial. Mais en fait, même ça, c'est interdit. Donc, il faut qu'on acquière des produits auprès d'un organisme qui s'appelle l'ADAV.
Oui.
Je n'ai plus la signification de l'acronyme. Oui. Mais il faut savoir qu'un DVD que vous touchez à 5 euros dans le commerce, là, il vaut entre 50 et 70 euros. Ah, oui.
Parce qu'il y a tous les droits de prêt, de diffusion qui sont inclus dans l'achat du DVD. Donc, il faut obtenir l'autorisation de l'ADAV pour s'inscrire sur leur site, ce qu'on est inscrit sur leur site. Mais pour l'instant, il faut un financement parce qu'un fonds DVD Tech d'à peu près une centaine de DVD coûterait entre 7 et 10 000 euros à peu près.
Ah oui.
Donc pour l'instant, mais c'est ce qu'on envisagerait de faire parce que ce n'est pas fait en France. Et je me suis renseignée pour créer une VOD, en fait, à destination des déficients visuels pour l'audiodescription. Mais par exemple, à la DAF, sur 12 000 titres, aucun n'est disponible en audiodescription, alors qu'ils le sont sur support DVD, mais pas en VOD.
Et quand on va sur votre site, on peut voir les films, c'est ça ?
Non.
Alors, non,
c'est
pas ça. On peut avoir la liste des
films. Parce que je suis allé, à un moment donné, ça bloquait, mais je me suis dit, est-ce que juste la liste des films ?
Oui, parce qu'on n'a pas le droit pour l'instant de diffuser, il faut payer des droits.
D'accord.
Et pour créer une VOD, une plateforme VOD d'audiodescription pour les déficients visuels, ce serait un gros, gros travail. Il faudrait demander à tous les ayants droit de chaque film qu'ils donnent leur autorisation pour l'audiodescription, qu'ils éditent une version avec piste audio décrite. Enfin, c'est assez compliqué.
C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est que même un film sort au cinéma en audiodescription.
Oui.
En fait, généralement, l'audiodescription n'est que sur la diffusion d'origine.
Oui.
Donc, elle n'est pas forcément répercutée sur le DVD.
Sur le DVD, oui, c'est ce qu'on a.
Mais sur le DVD, en plus, il faut savoir que l'emballage cache souvent l'information.
Ah oui.
Et donc, c'est très compliqué. On est connu du magasin Cultura à Compiègne parce qu'on est obligé d'arracher les étiquettes en symbole.
Ah, oui.
Alors, Philippe est muni de son petit couteau.
Pour voir s'il est en audiodescription ou pas.
Ah oui, d'accord.
Et d'autant que c'est
ils n'ont pas pensé à ça.
Non. Et d'autant que ce n'est même pas un critère de recherche sur des sites commerciaux.
Oui.
Donc ça, c'est... Ou alors, on a eu des bizarreries. Donc, on a eu Germinal, qui est un film français, avec une audiodescription en anglais.
Ah oui. Alors, si on complique les choses,
on va apprendre l'anglais en plus.
Et là, on a acheté un autre film, là, récemment. Il est écrit « Audiodescription AD » sur l'emballage, mais dans le menu du DVD, il n'y est pas.
Et vous croyez qu'un jour, sur les plateformes comme Netflix, par exemple, ils vont y penser ?
Alors, il y en a déjà.
Alors, il y a déjà certaines séries en audiodescription, mais d'accord. Après, pour certaines télés, vocalisées ou non, lorsque vous entrez dans le menu de Netflix, vous ne pouvez pas choisir la version audiodécrite. Toutes les options ne sont pas forcément vocalisées. Donc, il y a encore un gros, gros travail à faire.
Et la télé, enfin la chaîne par excellence de l'audiodescription, c'est Arte.
Oui.
Ah oui. Oui.
C'est eux qui ont une majeure partie de programmes audiodescrits.
Oui, oui, oui.
Donc Arte, vous. Avec l'Allemagne, la France, peut-être qu'il y a peut-être plus de choses faites en Allemagne, alors je ne sais pas.
Oui, Arte, et puis il y a une plateforme, Arte TV aussi.
D'accord.
Qui propose.
Oh, puis les mecs réfléchissent sur Arte, c'est ça aussi, quoi. Oui. C'est pas partout. Hein.
Mais Arte TV, c'est vrai qu'à partir de la tablette, on arrive un peu plus, d'un iPad ou d'un ordinateur, on arrive un peu plus à accéder. Mais sur les télés, c'est un peu moins, je trouve que c'est un peu moins évident.
ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec duquel on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe. Déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour, vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner. Jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez. On leur dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime.
Alain, nous sommes de retour sur les ondes de RVM. Vous êtes bien sur le bouche à oreille qui reçoit ce soir l'association Nouba. Donc, vous voulez réagir à l'émission via le Facebook RVM FM, le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com et le téléphone, puisque nous avons une standardiste aujourd'hui ou ce soir, 03 44 59 30 30. Pour les rediffusions, il sera trop tard. Mais on pourra transmettre des questions, si vous en avez, à l'association Nouba. Alors, Isabelle, votre choix musical, vous pouvez nous le commenter, s'il vous plaît.
Écoutez, on a voulu, on a choisi une chanson de Louis Chédid, donc ça a été le choix de Philippe. Je l'ai laissé choisir cette chanson qui est plutôt très, très douce, très, très belle aussi, sur l'amour, la tolérance. Et je trouvais que c'était important aussi de transmettre ce message, même si on n'est pas dans la compassion. Et donc voilà, j'ai choisi cette chanson.
Toutes les chansons qui traitent du handicap, où elles sont...
Ou alors elles sont tristes, ou elles sont misérabilistes, ou... Enfin, ça n'a pas été forcément intéressant, donc on a voulu...
Donc il va falloir écrire une chanson, alors, hein.
Oui.
Ça sera le mieux, hein.
Oui.
Alors, l'association Nouba, est-ce que vous travaillez avec d'autres associations? Est-ce que vous avez des choses qui vont se mettre en place, des partenariats?
Pour l'instant, on a des partenariats avec Cessia, le fournisseur de matériel adapté, et on va organiser, on va pouvoir montrer du matériel et apporter des conseils. Donc le matériel adapté, c'est une autre facette de l'accessibilité et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc ça va du thermomètre parlant à la balance de cuisine parlante, au pèse-personne. Bon, tous sont des produits parlants, détecteurs de couleurs, à certains jeux adaptés. Qu'est-ce que j'oublie encore? Des lecteurs de livres aussi audio, spécifiques pour les déficients visuels. Donc, il y a quand même pas mal de produits, donc quelques petits produits que nous aurons. Et pour certains autres qui sont plus onéreux, nous pourrons les avoir sur commande. Donc ça, c'est une premier aspect. Nous parlons aussi avec Transdoc aussi, une association qui milite pour la lecture pour tous. Comment tu disais ?
Sur Marny.
Sur Marny. Donc là, nous avons nous pourrons faire des choses ensemble. Nous allons participer à la nuit du handicap, probablement. Donc ça, c'est en cours, le 15 juin, au RA de Compiègne. Donc, et puis, nous pensons participer aussi à la fête des associations. Et ce que nous voudrions, c'est nous aimerions avoir des déficients visuels qui nous rejoignent, au même titre que des voyants et malvoyants, pour pouvoir étendre nos actions et puis...
Ça veut dire que les gens s'isolent un petit peu, c'est voilà. Ça
ils oui, se... oui, ouais. Oui, oui, oui.
Ils n'osent pas parler, non, ils partager osent pas leur handicap
parler, ou... et puis parfois certains sont un peu... ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies où ils sont réfractaires. L'électronisme existe aussi chez les non et malvoyants.
C'est vrai que le pèse personne parlant, moi, ça me foutrait la trouille parce que quand je monte dessus, moi, je ferme les yeux, je peux vous le dire.
Non, mais là, il n'y a pas d'autre choix. Enfin, les pèse personne braille.
J'imagine.
C'est un peu difficile. Donc, simplement, ce sont des exemples, des thermomètres médicaux aussi, sans contact parlant. Ça, ça peut servir.
Le seul problème du matériel adapté, en fait, c'est son coût.
C'est pas encore abordable, c'est ça ? C'est très cher.
Ça dépend. Enfin, là, des produits, la balance de cuisine qu'on a présentée, elle vaut 50 euros. Bon, il y en a une qui en vaut 135. Mais là, je trouve ça inutile.
Ils font la même chose.
Mais pour avoir du matériel adapté, c'est des fournisseurs spécifiques qui font ça. Pour avoir un four, par exemple,
alors, le four adapté,
à assistance vocale, alors, ou interface vocale, c'est
non,
une entreprise spécifique.
Ce n'est
pas le grand... Alors, le tout venant qui existe.
C'est Samsung. Enfin, je cite une marque, là, mais...
Non, mais tant pis, on va devoir citer des marques, là, je suis désolée, je vais faire
plusieurs.
Peut-être plusieurs.
S'il y a plusieurs, ça va.
Plusieurs. donc, avant, il y a eu un four spécifique aux déficients visuels, c'était Brandt qui faisait ça jusqu'en 2004. Ils ne l'ont plus commercialisé pour des raisons de rentabilité, manifestement. Donc, c'était un four qui était très cher et qui avait quand même des programmes assez limités. C'était des boutons simplifiés. Il y avait peut-être 2 boutons, 3 boutons. Bon, voilà. Maintenant, pour les fours adaptés, les Samsung sont compatibles avec assistants vocaux et ont des boutons physique. Et il y a les appareils Home Connect, donc tout ce qui est Siemens, Bosch, Neff, enfin tous ces appareils, sont compatibles avec l'application Home Connect. Alors certains n'ont pas de bouton, donc ça c'est plus embêtant, parce que si vous avez des aléas donc d'accessibilité de l'application, et eh bien dans ce cas-là, vous êtes pendant un petit moment sans pouvoir vous servir de votre four ou votre machine à laver. Si vous avez des boutons, si vous êtes ou temporairement en panne d'Internet, en plein fonctionnement, vous pouvez quand même vous en sortir. Donc, c'est important d'avoir et l'assistant vocal et quand même des boutons physiques au cas où.
Puisque maintenant, ils font même des boutons fictifs.
Ah oui, les boutons numériques.
Oui. On les tourne.
Tu passes 3 heures.
Tactile, oui, c'est une petite couronne qu'on tourne avec le doigt. Là, il faut faire un petit geste comme si on tournait, mais simplement, on ne le voit pas. Alors, pour certaines choses, il est possible de mettre des pastilles adhésives aussi, parce que ça, c'est faisable, de mettre des petits repères tactiles. Et bon, ça aussi, c'est... Ça fait partie des adaptations qu'on peut mettre en place.
Mais c'est quand même une vraie gageure pour tout ce qui n'est pas purement appareil spécialisé.
Ouais.
L'adaptation aux assistants vocaux, en fait, c'est quand même très pratique. Le seul problème, c'est quand on change de box, par exemple, où il faut tout reprogrammer, l'intégralité de sa maison. Et là, nous, on a dans l'idée, en fait, de transformer notre lieu de vie en appartement témoin. Les gens puissent prendre conscience de tout ce qui peut être
connecté.
Et puis en fait, on a 3 assistants vocaux. On a Alexa d'Amazon, on a Google et on a Siri d'Apple.
Mais je dois dire qu'Alexa, pour l'instant, est le plus performant. Et là, j'ai réussi à mettre en place l'aspirateur connecté. J'ai quand même réussi avec Alexa. Mais là, le four, en ce moment, on n'arrive plus à connecter. On se fait... Il faut qu'on s'y penche.
Donc on mange froid, alors c'est ça.
Non.
C'est moi qui fais la cuisine.
Ah, ouais. Ça va.
Non, c'est qui fait fonctionner le four. Mais il existe aussi les robots, les robots culinaires et les robots qui cuisent. Donc, alors Thermomix, c'est plus possible parce que c'est totalement tactile.
Ah oui.
Et il n'y a pas d'application qui permet de le faire fonctionner puisque tout est à l'intérieur de l'appareil. Mais par exemple, le Moulinex, tout ce qui est compagnon, ça c'est faisable. Puisqu'il y a une application smartphone et certains ont des boutons. Et même pour celui qui est tactile, il y a quand même l'application possible. Et puis, il y a les Kenwood aussi. Certains Kenwood qui sont possibles. Voilà. Et le Magimix.
Sur votre site, on trouve tout ça, toutes ces informations.
Mais ça, je vais les mettre. On va les mettre là.
Mais c'est assez difficile à répertorier, en fait.
Les robots culinaires, on pourrait le faire.
Ouais.
Parce que ça,
pour le reste, pour savoir où ça doit.
Mais par contre, pour les fours, il faudrait vraiment avoir tous les modèles. Et la problématique du tactile aussi, de tout tactile, se situe sur les frigos. Parce que maintenant, vous avez des thermostats en façade.
Ah oui.
Donc si malheureusement vous touchez la porte et que vous l'éteignez, vous retrouvez que des aliments périmés. Oui.
Et on a contacté un site dont je n'ai plus le
Électro-Guide.
Nom en tête. Électro-Guide. Qui recense tous les fabricants et tous les modèles. On leur a posé la question de savoir quel matériel pouvait encore avoir des boutons physiques. Et en fait, ils nous ont orientés vers l'entrée de gamme.
Ah oui, chaque fois, c'est les entrées de gamme.
Mais,
il n'y a pas d'électronique dedans.
Il n'y a pas d'électronique, mais c'est pas, d'un autre côté, ce n'est pas l'idéal non plus, parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas tout faire. Notamment, ils n'ont pas le mix entre l'assistant vocal et les boutons.
C'est pas qu'on est déficient visuel qu'on est obligé d'avoir.
Voilà, soit de l'entrée de gamme, soit des trucs hors de prix.
Mais voilà. Donc
les machines à café, les broyeurs à café, on était allé en acheter un. Donc, chez Boulanger, sur 25 modèles exposés, seuls deux avaient des boutons. Ou alors, il fallait s'orienter vers du connecté à au moins 1 000 euros, entre 1 000 et 3 000 euros. Donc, si on n'a pas envie de mettre ce prix...
C'est cher café, hein.
Oui, cher café. Si on n'a pas envie de mettre ce prix, voilà, on a un choix assez réduit. Et pour l'entrée de gamme des boutons physiques, le tout est que parfois, ils n'ont pas d'écran suffisamment, qui ont les sens suffisamment. Ou alors, des boutons lisses sans repère, où on n'a aucun cran que l'on puisse sentir. Ou alors, des touches où il faut appuyer, c'est déroulant. Et il faut juste regarder l'écran. Donc, même l'entrée de gamme avec des boutons n'est pas forcément idéale. Donc, vraiment, je pense que l'idéal, c'est le connecter avec boutons physiques. Et nous, on se propose aux adhérents, de ceux qui adhéreraient, dans la mesure du possible, dans l'avenir, de pouvoir aider à l'installation.
De les guider.
De les guider. De les aider.
Dans cette jungle.
Cette jungle.
Parce qu'on a écrit au constructeur, mais
ils
nous traitent un petit peu par-dessus la jambe, puisque c'est une minorité.
Et vous êtes dans votre coin, avec votre association, l'État fait quoi?
L'État
pour
fait
vous
quoi? Pour le sang,
rien.
Ouais, c'est ça, non mais...
Rien.
Non, rien. En fait,
c'est une très bonne question d'Hervé.
Ouais. Bah oui, quand même. Ça paraît quand même tellement bizarre que ça soit une association qui
mette le poids
de se débrouiller dans son coin avec les moyens qu'elle peut avoir et les dons qu'elle peut avoir. C'est assez aléatoire quand même. Et que l'État ne prenne pas en charge tous ces problèmes.
On est minoritaires. Ils ont d'autres préoccupations en ce moment.
C'est-à-dire qu'en plus, comme dans le monde associatif, on ne peut pas demander une subvention la première année de fonctionnement. Du coup, on a été obligé de fonctionner sur nos fonds propres. Et c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir investir dans une association qu'on lance. Ça prend la majeure partie de son temps.
Et là, vous êtes fait connaître sur Compiègne, par exemple,
oui,
sur Clairvoy.
On est allé voir les Bères, on est allé voir pour l'instant.
On a commencé des démarches pour se faire connaître, Mais on ne peut pas dire que l'engouement soit forcément au rendez-vous. C'est-à-dire que la population des déficients visuels, c'est ou une population de vieilles personnes. À ce moment-là, il faut...
J'allais faire un jeu de mots. On ne veut pas les voir, en fait. C'est ça.
Ou alors, ce sont encore des gens... Enfin, parce qu'on n'est pas sur Paris. Malheureusement, il y a quand même encore un décalage. Très encore isolés, encore... qui ne vont pas forcément...
Et donc c'est en passant sur des médias comme vous qu'on peut toucher ces personnes.
Sensibiliser, c'est ça. Ouais. Et justement, moi, je reviens sur le téléphone. Donc, on s'est appelé plusieurs fois, Isabelle, hein, au téléphone. Donc, c'est un téléphone spécifique, quand même.
Non, non, c'est un iPhone.
D'accord.
C'est un iPhone avec le lecteur d'écran VoiceOver. Donc, VoiceOver qui permet, lorsqu'on touche l'écran, il énonce l'élément que l'on touche. Et lorsqu'on veut le valider, eh bien, on fait un double tap avec un doigt. On balaye trois doigts vers le haut pour aller dans le sélecteur d'écran. Enfin, il y a toute une gestuelle spécifique pour VoiceOver. Donc ça aussi, je peux montrer ça, parce que je maîtrise très, très bien ça. Ouais. Mais il existe des téléphones adaptés. Donc là, on va en avoir un sur les deux. Donc un téléphone très simplifié avec de grosses touches et des points de repère sur les touches raccrochées, décrochées. Pour des personnes qui ne veulent pas de smartphone, qui viennent de perdre la vue, qui sont un peu perdues, qui ne sont pas forcément technophiles, mais qui permettent quand même d'accéder aux fonctions principales, de téléphoner ou pas. Parce que certains utilisent des Apple sans rien maîtriser, et ils en sont limités à raccrocher, décrocher avec 10 Siri, lorsque ça fonctionne. Et je trouve ça dommage. Donc il existe ce type de téléphone, qui sont à des prix de smartphone, bon, c'est à peu près 400 euros, aux alentours de 400 euros quand même, mais qui permettent quand même d'avoir des fonctions principales et dont un détecteur de couleur aussi intégré, certaines fonctions propres à la déficience visuelle.
C'est comme les téléviseurs. Il y a des téléviseurs avec synthèse vocale, où ils vocalisent tous les menus, en fait. Mais nous, on s'est trouvé confronté au problème en voulant acheter une télé. En fait, c'est les systèmes Android. Ou sinon, vous passez sur des systèmes propriétaires aux marques. Mais le système Android pur, on le trouve que sur des téléviseurs
bas de gamme.
Mais par contre, c'est Talkback, la synthèse vocale.
Mais là, par contre, ça manque de fluidité. Donc, ça rend service. Ça permet d'avoir, pour ceux qui ont un petit budget ou qui n'ont pas envie de mettre très cher dans un téléviseur, d'avoir une télé accessible. Mais perso, moi, je trouvais ça peu fluide.
C'est-à-dire que, en fait, comme ce sont des télés qui sont plutôt bas de gamme, les mémoires, les processeurs ne sont pas au niveau. Parce qu'il faut quand même de la puissance derrière pour arriver à gérer l'interface
vocale.
Ouais. Et ce n'est pas le cas.
Ou alors les Samsung aussi. Là aussi, ils ont fait de gros efforts et leur lecteur d'écran est pas mal fait. Mais dans certaines applications, par exemple France TV ou Arte TV, lorsqu'on entre dans l'application, on n'a plus accès à la vocalisation du menu. Alors Samsung le dit, mais là, on est bien embêté. Donc, mais quand même, il y a quand même des progrès qui se font.
Il n'y a qu'un seul opérateur de téléphonie mobile qui a mis la synthèse vocale sur les différents services de sa box, c'est Bouygues.
Et Free, maintenant, commence à le faire aussi.
Bon, là, je crois qu'on n'a jamais autant cité de marques
à
la radio.
Mais là, c'est indispensable.
Mais là, c'est pour la bonne cause.
Là, c'est vraiment pour la bonne cause et c'est indispensable. C'est pas de la pub, mais là, on est vraiment obligé de...
Il faut mettre les points sur les i. Ceux qui font des efforts, Bon, et si on parle un peu de Nouba, parce que la pauvre, elle est là depuis 50 minutes, elle attend qu'on parle un peu d'elle. Comment elle va, Nouba? Alors, elle est bien éduquée.
Nouba va très, très bien. Elle est à nos pieds, elle est très sage. Donc, comme je le disais, c'est une chienne guide qui vient du centre Paul Corteville, donc à Ronc. Alors, pour parler de son éducation, Nouba est née au centre de sélection et d'élevage de Lezou. Donc, c'est en Auvergne. C'est un centre où les reproducteurs sont sélectionnés pour leur capacité, leur aptitude donc comportementale et aussi le manque de tare génétique ou physique. Donc, une fois que les reproducteurs sont sélectionnés, lorsque les chiots naissent dans cette structure, ils sont déjà sensibilisés au bruit, manipulés, alors qu'ils sont encore avec leur mère. À 2 mois et demi, ils partent en famille d'accueil, sont répartis dans les différentes écoles. Donc, le prénom du chien, on ne le choisit pas. Et là, ils vont en famille d'accueil chiot, où ils sont éduqués pendant 10 mois à peu près, où ils apprennent à être de très bons chiens de compagnie. Donc, ils sont familiarisés avec tous les lieux et tous les bruits pour ne pas avoir peur, pour ne pas développer de phobie. Donc, même les gens qui travaillent, il faut être très, très disponible et l'emmener absolument partout. Ils ont l'accès, normalement, avec un gilet de chien, élève chien guide, partout. Ils sont suivis pendant ces phases d'éducation par les éducateurs de l'école. par les moniteurs, plus exactement, qui viennent au domicile de la personne, de la famille d'accueil. Et puis, les familles d'accueil vont en séance d'obéissance aussi à l'école, une à deux fois par mois. Donc ça, c'est cet aspect-là. Ils apprennent à ne pas monter sur les lits, à ne pas réclamer à table, à ne pas voler. Bon, ça, après...
Des fois, il y a des failles.
Il y a des failles. Petite Nouba Chaparde, quand même, pas mal. Mais bon, tout, chaque chien, personne, aucun chien n'est parfait. Hein. Ce sont des êtres vivants. Et voilà,
tous et, petit et c'est Nouba qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi Nouba?
Alors, c'est pas moi qui ai choisi. Donc, en fait, une fois qu'ils ont un nom, ils entrent à l'école de chien guide pour l'éducation de guide proprement dite, à savoir éviter les obstacles, rechercher les sièges, les portes, les escaliers, les escalators, les poubelles, les guichets dans les supermarchés, dans les lieux publics. Donc ça, c'était... Et puis, à prendre des initiatives. Lorsqu'ils voient un danger, ils se couchent. Donc ouais. Là, il faut qu'ils prennent des initiatives. Comment contourner des obstacles sur les trottoirs? Est-ce qu'ils ont la place pour passer pour deux? Est-ce qu'on a la place pour passer pour deux sans nous cogner? Ou est-ce qu'il faut contourner par la route? Dans ce cas-là, s'arrêter, s'asseoir et attendre que la maîtresse donne l'ordre. Et s'il y a un danger, le chien ne part pas. Il apprend à désobéir lorsqu'il y a un danger. Et seulement lorsqu'il y a un danger. Même si la maîtresse lui crie dessus et s'il voit le danger, normalement, il n'y va pas. Mais ça, c'est un peu compliqué parce que le chien, normalement, n'a pas conscience du danger. Donc, ce sont des chiens déjà très intelligents et vraiment sélectionnés.
Donc, c'est double éducation. Il y a l'éducation pour le chien et pour vous aussi.
Et pour nous aussi. Ouais. Alors, une fois qu'ils ont leur certificat d'aptitude à guider pour les écoles qui font partie de la Fédération des écoles de chiens guides, eh bien, le chien nous est remis. Mais pour remettre le chien, il y a différents critères. Le maître, lors de sa première demande, remplit un dossier administratif et ensuite il est convoqué à l'école pour un stage de sensibilisation, disons. Donc il a un bilan en locomotion, c'est-à-dire que le maître doit maîtriser son environnement, il doit savoir circuler avec la canne en sécurité, analyser les carrefours, parce que le chien ne traverse pas au rouge et au vert. Bon, si on le fait traverser alors qu'une voiture passe, il ne passera pas. Mais c'est quand même le maître qui décide du moment de traverser. Donc, il faut vraiment qu'il soit autonome et qu'il analyse son environnement. Le maître connaît ses parcours, beaucoup de parcours par cœur, hein, parce que c'est lui qui dit au chien à gauche, à droite, tout droit, devant, enfin, qui donne les ordres de direction. Et c'est pas le chien qui a une puce GPS et qui... Le chien vous emmène n'importe où. Ah non, on va pas lui dire, vous allez au 35 rue de la République à Clairoy, le chien va pas savoir y aller. Non, non, il a pas une puce GPS.
Et pour les personnes qui accompagnent, quand on sort à trois, donc ils s'appellent Nouba et moi, moi au début j'étais un petit peu perdu parce que où marcher? C'est-à-dire que Nouba, en fait, à partir du moment comme elle me connaît, elle a tendance à me suivre. Et donc, elle n'est plus tout à fait dans son travail. Donc, en fait, il faut marcher derrière pour la laisser guider.
Sans se laisser troubler.
C'est assez compliqué, en fait.
Oui, sans se laisser troubler. Et donc, une fois qu'on a passé ce bilan de locomotion, on passe devant un psychologue, on voit des éducateurs de chiens guides. Et on a beaucoup d'entretiens aussi pour connaître nos besoins, notre mode de vie, nos attentes, notre morphologie, notre grandeur. Parce qu'on nous remet aussi un chien, on est grand, on ne va pas nous remettre un tout petit chien. Parce qu'il faut quand même qu'il ait une certaine hauteur pour ne pas avoir un trop long harnais pour le harnais et le guidon.
Il faut savoir qu'il y a des caniches.
Des caniches royales. Royales.
Ah, c'est des grands caniches.
Oui, parce qu'ils sont presque à la taille d'un labrador. Parce que les petits caniches, ce serait quand même assez compliqué. Ouais. J'y reviendrai après. Donc, on a ces entretiens avec les éducateurs. Et puis aussi, on a nos besoins. Est-ce qu'on préfère un chien, une chienne? Est-ce qu'on veut un chien plutôt calme, plutôt joueur, plutôt... Enfin, ils essaient de répondre à nos attentes. Et puis, il y a parfois des spécificités. Nouba est éduquée à droite parce que j'ai un problème à l'épaule gauche. Parce que 99% des chiens sont éduqués à gauche. sont, donc on les tient à gauche.
Et à pas cause à droite. Du sens oui. de circulation.
Alors je pense qu'il y a le fait que beaucoup sont, la plupart des gens sont droitiers, donc les poignées de porte c'est souvent d'accord. à droite. Oui. Ouais. Les composteurs c'est à droite, dans les bus les poignées c'est à droite. Et du coup je suis parfois obligée de faire des petites manipulations pour ouvrir les portes et, ah oui. puisque Nuba est à droite. Hein, donc il faut parfois que je me retourne ou que je cherche un petit peu. Donc c'est un petit inconvénient, mais je n'ai pas le choix compte tenu de mon problème d'épaule gauche. Voilà.
Il y a plusieurs niveaux d'éducation pour les chiens ou ils ont tous la même...
Non, ils ont tout. Alors pour les chiens des chose. Écoles fédérées, ils ont tous la même éducation. Ils ont uniformisé et c'est pour ça qu'ils passent le certificat d'aptitude à guider. Hein. Donc ils vont à l'école hein, donc pendant leur formation et ils sont le week-end en famille, week-end, famille d'accueil. Et... Donc le chien est suivi ensuite pendant toute sa carrière de chien guide, au moins ouais. une fois par an. Et puis on a des entretiens réguliers avec les éducateurs et s'il y a le moindre problème, on peut les joindre et leur dire ce qui se passe et ils reviennent si besoin. Et donc le chien appartient à l'école. Il ne nous appartient pas pendant sa carrière, entre guillemets, de chien guide, mais à sa retraite, donc à l'âge de à peu près entre l'âge de 10 et 12 ans. 12 ans, c'est le maximum. Hein, donc un chien travaille en moyenne entre 8 et 10 ans. Travail, c'est entre guillemets, hein, parce que c'est un peu...
On est en pleine réforme des retraites, alors dites pas, voilà, voilà. Attention.
Oui, mais Nuba est à droite, ça va bon. Plaire à Emmanuel quand même. Non, c'est...
Donc Nuba va travailler entre 8 et 10 ans, Chapi a travaillé presque 10 ans. Donc ça dépend de leur état de santé, de leur fatigue.
Si on convertit en âge de chien, ouais. ça fait 70 ans.
Et donc, à la retraite, il nous est possible de l'adopter. Donc moi, c'est ce que je vais faire aussi pour Nuba. Je l'ai fait pour Chapi. Et de toute façon, il n'aurait pas été question pour moi de le... de pouvoir la rendre, hein, c'est de pouvoir la donner. Mais il est possible, si le déficient visuel ne peut pas faire autrement, parce que ça arrive, hein, et c'est un déchirement dans ce cas-là, moi je ne porte pas de jugement dans ce cas-là, mais que le déficient visuel le donne, le fasse adopter par quelqu'un de sa famille, en priorité, ou quelqu'un de son entourage, ou alors l'école trouve une famille d'accueil, mais il s'arrange pour qu'il y ait toujours
oui,
des liens...
Qu'il ait une belle fin de vie quand même, oui.
Ouais, ouais. Et puis même, il faut qu'il y ait toujours des liens entre le maître et le chien guide, que le maître du chien ait toujours des nouvelles de son ancien chien guide.
Alors, Isabelle, l'émission va se terminer. Est-ce qu'on a un message à passer aux auditeurs? Comment vous rencontrer? Comment vous
alors,
aider
vous pouvez
quels sont les contacts?
Alors, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre si cette cause vous tient à cœur. J'aurais eu encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je pense que...
On se reverra.
On se reverra. Et donc, vous pouvez nous joindre au 06 01 68 82 90 ou au 06 03 17 95 45 ou bien à l'adresse mail contact@nuba-asso.fr ou bien vous avez notre site internet http://nuba-asso.fr. Voilà. Et surtout, si cette cause vous tient à cœur, l'autonomie des déficients visuels et la sensibilisation au grand public, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voyons. Malvoyant, non-voyant. Donc, personne voyante, malvoyante et non-voyante. C'est important de le dire.
Merci Isabelle. Merci Philippe.
Et merci à vous de m'avoir invité aussi.
Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de se retrouver dans les studios d'RVM avec grand plaisir pour avoir un peu les avancées que vous avez pu mettre en place. Merci Hervé, merci Gontran, merci Luc à la technique. Les auditeurs, rediffusion de l'émission le dimanche à partir de 16h et le mardi à 10h. Après, en podcast. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Bonsoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.